Le 5 novembre prochain se tiendront les élections municipales partout au Québec. La semaine prochaine, on va recevoir ici des représentants des deux principaux partis politiques de Montréal. Quand je dis ici, c'est à l'émission. Et il sera, disons, nécessaire de leur demander ce que les gens veulent en matière d'accessibilité universelle et aussi ce que les groupes communiquent comme revendication. Alors, on a de la suite dans les idées à l'émission et on s'est dit qu'avant ces élections et avant de rencontrer les deux représentants des principaux partis, il faudrait bien rencontrer, disons, quelque chose comme les trois principaux organismes de défense de droit à Montréal. En gros, on va dire ça, pour les personnes handicapées. Donc, d'abord, avec nous, on a Anne Pelletier, qui est directrice générale de Défi Montréal. Et seulement pour le rappeler, vous avez peut-être souvent entendu ROP, Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain, mais c'est l'ancien nom, puisque maintenant, il y a beaucoup de défis pour l'accessibilité universelle à Montréal. Alors, ça s'appelle Défi Montréal. Bonjour, Anne Pelletier. Bonjour.
Bonjour, Benoît.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Et avec nous aussi, Marie Turcotte, directrice générale d'Execo, qui est avec nous en studio. Bonjour, Marie.
Bonjour, Benoît.
Et bon, il y a une déroute un peu possible avec notre ami Laurent Morissette, qui doit être des nôtres. Bon, vous savez, question de transport, tout ça, je sais qu'il voyage beaucoup, là. On va avoir de ces nouvelles probablement un peu plus tard dans l'émission. Alors, je m'adresserai d'abord à vous deux, mesdames. À tour de rôle, j'aimerais ça que vous m'indiquiez ce qui est urgent à Montréal pour votre organisation et, dans le fond, ce que la prochaine administration municipale devrait faire pour les personnes en situation de handicap. Je commencerai avec Anne Pelletier de Défi Montréal.
Bonjour Benoît. Alors écoute, oui. Pour nous, à Défi Montréal, comme tu l'as exprimé, nous sommes un regroupement d'organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Et on a déjà un énorme enjeu qui est la disponibilité des locaux. Beaucoup de nos organismes manquent de locaux, n'ont plus de locaux disponibles et trouver des locaux abordables et accessibles, c'est un enjeu majeur. Et là, on va vraiment avoir besoin que la nouvelle administration se penche très sérieusement sur le dossier parce que de nombreux organismes pourraient être amenés à fermer dans les prochains mois.
Oui, parce que certains des organismes du secteur ont perdu leurs locaux récemment et dans un des cas, par exemple, ils ont dû couper un membre du personnel pour pouvoir se permettre les locaux. C'est sérieux.
Exactement. Oui. Exactement. Les coupures à cause des commissions scolaires, notamment, qui font face à une augmentation du nombre d'élèves, donc ils doivent reprendre les locaux vacants. Mm-hmm. Et à ce moment-là, donc, beaucoup d'organismes doivent trouver des nouvelles solutions. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur de nos membres comme organismes communautaires qui offrent des services à la population, donc ils doivent être capables de se relocaliser extrêmement rapidement. Mm-hmm. Après, dans les autres enjeux qui nous sont souvent soulevés donc, par nos membres, bien sûr, l'accessibilité du transport à Montréal, qui est quand même un problème criant, qui est très, très loin d'être réglé. Le logement, cet été, beaucoup de personnes ont eu énormément de mal à trouver des logements abordables et accessibles. Et des dossiers qui sont aussi plus souvent oubliés, sur lesquels on travaille beaucoup au niveau du regroupement, c'est l'emploi des personnes handicapées à la ville.
Ben oui.
Donc, très, très gros dossier.
Bien sûr.
Comment inciter la ville à employer des personnes handicapées et l'accessibilité, les nouvelles technologies, on va dire. Donc, entre le web et toutes les nouvelles technologies.
Mais ça, on va y revenir, puisque vous êtes aussi un organisme qui travaillait fort là, pour une mise en accessibilité de l'information, des services, du web de la ville. On y reviendra. Je passerai la parole à Marie Turcotte, directrice générale d'Execo. Même chose, qu'est-ce qui est urgent à Montréal? Qu'est-ce qu'on doit adresser à nos futurs administrateurs de la ville?
Bien, moi, quand je vois les dernières années, à peu près 15 ans, la ville de Montréal a pris une position en faveur de l'accessibilité universelle. Et ce qu'on voit, la ville met en place des grands projets et malheureusement, elle n'a pas d'outils qui lui permettent de s'assurer que l'accessibilité figure, est intégrée dans les grands projets, puis va être présente dans toutes les étapes clés du développement du projet. Mmh. Et à mon avis, ça, il y a une urgence d'agir à ce niveau-là.
Parce qu'au fond, les grands projets, ça couvre souvent des territoires un peu plus larges qu'une maison ou un édifice de la ville.
Effectivement. Puis la ville s'en va aussi, il y en a de plus, tu sais, des projets où ils interpellent aussi plusieurs partenaires. Quand on intervient sur un territoire donné, mettons, pour l'habitation, on ne peut pas juste mettre une tour d'habitation, il va y avoir des commerces de proximité. Elle va aussi interpeller le STM pour favoriser le transport collectif, etc. Et ça finit par être des projets structurants.
Ben oui, puis il y a
Mais,
beaucoup d'acteurs.
puis effectivement,
Ouais.
et là, c'est comment s'assurer dans ces projets structurants-là, l'accessibilité soit dans toutes les étapes. Puis ça, je pense que le jour où ça sera, ça fera une pratique bien implantée, ça sera profitable pour l'ensemble des personnes en situation de handicap.
Et même celles qui en profitent, peut-être pas
Effectivement.
directement, comme les familles à poussettes ou toute personne qui présenterait temporairement des problèmes de
Oui,
mobilité.
effectivement.
Bon, très bien. Alors, on entend bien vos priorités, disons, mais je retournerai vers Anne Pelletier, directrice générale de Défi Montréal. Votre organisation était reconnue pendant longtemps comme l'Europe, là, je le rappelle, mais un des dossiers sur lequel vous œuvrez est l'accessibilité universelle de l'information et du web. Est-ce que ça pourrait constituer un dossier important pour la prochaine campagne, Anne Pelletier?
Alors oui, c'est un dossier très important. Dans la dernière année, la ville se concentre beaucoup dans son grand projet qui s'appelle la présence numérique, donc refaire sa présence numérique.
La ville
Ça
intelligente.
constitue la ville intelligente,
Bon, oui.
exactement. Donc il y a toute une partie de site web de la ville où là, la ville vraiment met en œuvre tout ce qu'elle peut pour rendre ce nouveau site le plus accessible possible. Mais il y a bien d'autres enjeux au niveau des interactions. Donc, comment
Comment les
comment
personnes interagissent avec le
les
web?
citoyens montréalais vont être capables de prendre ces virages,
Ouais.
même si le site web est accessible, comment ils vont gérer toutes ces interactions? Donc, il va falloir que la ville aille communiquer avec ses citoyens pour que les gens sachent ce qui s'en vient, ce qui va
Ah ouais.
arriver, quels nouveaux moyens vont être mis à leur disposition, services vont être maintenant disponibles uniquement en ligne. Donc ça, cette communication d'aller vers le citoyen, d'éduquer le citoyen, va être vraiment un enjeu considérable pour la réussite de ce projet.
Parce qu'en
Et
fait, j'imagine
également.
qu'on veut beaucoup à la ville s'assurer que la seule et première porte d'entrée soit le web ou des applications, si c'est des applications, mais elles sont pas toujours accessibles, si je comprends bien.
Mais
Aux
même
personnes
si la ville fait
aveugles,
un
par exemple.
effort pour les rendre techniquement accessibles, je vous dis, il va y avoir aussi un effort de communication qui va être à faire, vraiment pour éduquer les citoyens, aller à la rencontre du citoyen. Dans nos pays occidentaux, on a quand même à peu près 50% de la population qui est en faible littératie.
Ouais.
Donc, il va falloir approcher ces gens-là pour qu'ils soient capables de faire ce virage, même si les outils ont été créés accessibles. Savoir les utiliser, être à l'aise avec ça et savoir quand les utiliser.
Donc, quand vous parlez de communication accessible, vous ne parlez pas seulement pour les personnes qui ont une basse vision, les personnes aveugles qui sont légion à nous écouter, vous parlez aussi de toutes ces personnes qui présentent des difficultés à la lecture.
Toutes les personnes qui ont de la difficulté à la lecture, les personnes allophones dont la langue
Oui.
maternelle n'est pas le français, etc. Donc ça couvre une énorme partie de la population.
Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que la ville doit faire à part sensibiliser les gens, comme vous le dites, là, leur annoncer que ça existe, ces services-là, mieux interagir avec eux?
Il va falloir les éduquer. Je pense que
Oui.
le milieu communautaire va devoir aussi être un intervenant essentiel pour aller à la rencontre de la population et puis éduquer les populations à être capables de prendre ce virage.
Parce que est-ce que vous trouvez que les organismes ont les moyens de faire ça?
Ça va être un enjeu de la ville, justement, développer beaucoup plus ses partenariats avec le communautaire qui, lui, est en relation avec les populations vulnérables, avec les populations qui vont avoir besoin de cet encadrement-là.
Ben oui, bien sûr. OK. Si vous permettez, on va revenir à Marie Turcotte pour parler d'un exercice qui a été fait. Puis après, je vous poserai peut-être deux grandes questions d'enjeu. Vous réagirez à vous qui le souhaitez, là. Donc, je me retourne vers Marie Turcotte, qui est directrice générale d'Execo. Donc, avec d'autres groupes, vous avez œuvré concrètement à la mise en accessibilité universelle des bureaux de scrutin, à la formation du personnel d'élection aussi, parce que faut le dire, là, c'est bien beau les promesses que les politiciens vont nous faire, mais il faut bien être capable de voter pour l'un ou l'autre pour commencer.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Marie Turcotte? Qu'est-ce que vous avez fait avec d'autres pour que les élections soient davantage accessibles?
OK. Là, on a travaillé ça justement avec Anne de Défi,
Bon,
Défi
voilà.
Montréal et la table de concertation des aînés de Montréal. En fait, c'est intervenir, on travaille en collaboration avec le service du CREP pour s'assurer que pendant tout le processus, que ce soit pour aller t'inscrire, si ton nom ne figure pas sur la liste, aussi pendant le vote, quand tu vas voter, que tout soit mis en place pour pas que tu rencontres d'obstacles, mais au contraire des facilitateurs.
Ah oui.
Comme par exemple, le jour du scrutin, dans la salle, pour ceux qui veulent, ils ont de la misère à tenir le petit crayon, il y a des crayons plus gros. Il y a une pince, une tablette pince pour les gens qui ont de la misère à tenir leur bulletin. Et ça, ils vont avoir ça dans tous les bureaux de scrutin.
Ah, c'est important de le rappeler.
C'est ça. Et aussi les gabarits que les gens qui ont une déficience visuelle vont pouvoir utiliser, mais même celles qui ont de la misère à mettre, qui ont, avec leur
Ouais, qui
bras
sont moins
cassés,
agiles
c'est
des
ça,
mains, par
plus,
exemple, ouais.
c'est ça, qui ont peur de mettre un trait sur deux cercles, ben, ils
Ouais.
peuvent utiliser aussi le gabarit. Fait que ça, c'est une chose. Il y a aussi, il y a 2 semaines, on a donné un atelier de sensibilisation de 3 heures. Pour tous les coordonnateurs et leurs adjoints, c'était 50 personnes. Et il y avait une personne par type de déficience.
Ah oui.
Il y avait la déficience visuelle, auditive, intellectuelle, langage, parole, motrice, et qui donnait des trucs et conseils sur comment accueillir les électeurs en situation de handicap. Il y avait aussi un représentant aîné, une personne aînée qui a fait un témoignage. Et on leur a aussi remis un outil, un aide-mémoire, qui pourra être remis aux 13 000 employés, parce que c'est
Et
13 000
là,
employés qui travaillent le jour du scrutin.
ça fait du monde à éduquer ou sensibiliser, si je peux dire.
C'est ça,
Bon,
c'est ça.
Anne, c'est un bel exemple de partenariat, ça, avec la ville. Est-ce que, avec tout ça, je suis désolé, je vais devoir poser la question, est-ce qu'on va arriver à du 100% d'accès au bureau de scrutin?
OK, pour l'accessibilité architecturale, c'est Société Logique
OK.
qui a travaillé avec eux pour dire qu'il y a 4 ans, ils avaient développé une formation, une grille d'évaluation pour ceux qui choisissent, qui louent les
Ah,
locaux.
parce que c'est ça souvent le problème, hein?
Ben,
C'est que
c'est
les
ça.
locaux avec lesquels on fonctionnait, c'était des écoles,
C'était
des choses comme ça.
la liste du DGEQ, Directeur général des élections du Québec. Et là, maintenant, eux, ils ont leur propre liste. Cette année encore, Société Logique a donné à nouveau une formation et il a aussi apporté des précisions, bonifié la liste à la suite d'expérience des élections d'il y a 4 ans. Elle a été bonifiée.
Bon, très bien. Écoutez, Marie Turcotte, avec Ex-Éco, il y avait eu, aux dernières élections en 2013, 41 revendications qui recoupaient beaucoup de thèmes. Certains ont été soulevés par Anne. Cette année, vous semblez, en vue des élections, mettre une petite attention spéciale sur le logement, si je comprends bien.
Oui.
En fait, de quoi s'agit-il?
Ben en fait, c'est le logement parce que quand on parle d'inclusion, hein, ça commence par pouvoir vivre dans la communauté. À Montréal, il se fait beaucoup de comptes de logement social, de logement abordable. Ces projets-là d'habitation contiennent des appartements, des unités d'habitation accessibles, universellement accessibles. Et là, le problème, c'est qu'il y a aussi. C'est qu'il y a des locataires qui sont en situation de handicap, qui veulent déménager, qui sont à la recherche de logements accessibles, adaptables ou universellement accessibles. Et tu as aussi le propriétaire d'immeubles qui est à la recherche de personnes en situation de handicap pour occuper ces logements accessibles ou adaptables.
Donc,
Et
ces gens-là
là,
se rencontrent pas, puis
et
ça fait qu'il n'y a pas de
c'est
logement.
effectivement. Et ça va même qu'il y a des propriétaires qui ont des logements adaptables, à force d'attendre, d'attendre, finis par louer par monsieur et madame tout le monde. Ça fait qu'il y a des ressources qui sont investies, mais ne sont pas utilisées nécessairement par les bonnes personnes. Et ça a pour impact que les personnes en situation de handicap, certaines demeurent dans des logements inadéquats, qui peuvent compromettre leur sécurité, puis ou bien donc vont se retrouver en CHSLD. À défaut. Et là, nous, on demande, on aimerait que la ville, justement, soutienne, en tout cas, développe un outil qui est un outil pour permettre cet arrimage-là entre le locataire et le locataire.
Voilà, pour qu'il y ait du logement accessible le moins cher possible, parce que bon, souvent, le premier handicap, c'est la pauvreté, qu'on le veuille ou non, là, que ça soit simple pour tout le monde. C'est quand même relativement économique comme, comme proposition. Avant de nous quitter, Anne Pelletier, de Défi Montréal, vous parliez d'emploi qui est, en fait, comme enjeu important. Est-ce que vous avez, comme regroupement, une revendication phare sur l'emploi en vue des prochaines élections?
Alors, nous, au niveau de la ville, on essaye d'éduquer, qu'il y ait de la sensibilisation au niveau du service des ressources humaines et du personnel qui travaille à la ville pour enlever ces préjugés à l'égard des personnes handicapées en emploi.
Ah oui.
Parce que le taux d'emploi des personnes handicapées à la ville est extrêmement faible et c'est énormément par un problème de mentalité, moyens mis en œuvre dans les processus de recrutement, cibler les personnes, mais beaucoup avec des préjugés dans les services. Les personnes nous annoncent que si cette personne a un handicap, elle ne pourra pas travailler dans notre service.
Mais j'entends bien les préjugés, mais je suis surpris, Anne Pelletier, puisque la ville n'était pas soumise au programme d'accès à l'égalité en emploi. Elle ne devait pas répondre à certains quotas. Oui.
Effectivement, la ville le doit. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont même du mal à recevoir des candidatures de personnes en situation de handicap à l'heure actuelle. Ils ne reçoivent quasiment pas de candidatures. Les postulants sont tellement certains qu'ils ne seront pas pris qu'ils n'osent même plus postuler.
Donc, il faut des deux côtés faire de la sensibilisation, j'oserais dire.
Exactement, exactement. Donc, travailler aussi. Et là, on rejoint toujours cette communication au niveau du public dont je parlais tout à l'heure, que la ville communique plus fortement que le message à dire on a une politique d'égalité en emploi parce que les gens n'y croient pas. Donc c'est vraiment travailler aussi ces communications à dire envoyez-nous vos candidatures, nous embauchons des personnes handicapées, c'est un vrai message. Et de l'autre côté, s'assurer que dans les services aussi ça suive pour être capable de faire une inclusion tout à fait harmonieuse des personnes en situation de handicap dans les milieux d'emploi.
Très bien, écoutez, on a bien entendu vos revendications. Il y en a d'autres aussi. D'ailleurs, si on va avoir plus d'informations sur l'action de Défi Montréal, on se rend, rappelez-moi l'adresse, Anne Pelletier.
Défi, donc D-E-P-H-Y, comme déficience physique, donc D-E-P-H-Y-M-T-L.org.
Très bien. Et on va l'ajouter aussi sur notre page. On vous suit et on relaie aussi vos propositions aux élus, aux représentants la semaine prochaine. Marie Turcotte, merci beaucoup, directrice générale d'Execo.
Bienvenue, ça fait plaisir.
Et on retrouve plus d'informations sur execo.net ou sur Facebook. On repère Execo aussi. Merci beaucoup, mesdames. On s'en va vers les élections. 16 novembre. Oh non, pas 16! Non, je suis en train de dire les gens en erreur. 5 novembre, on vote.